La première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de votre cerveau. La seconde est de vous extraire de tout ce système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où il devient un réflexe de lire la première page du Los Angeles Times en y recensant les mensonges et les distorsions. Un réflexe de replacer tout cela dans un cadre rationnel. Pour y arriver, vous devez encore reconnaître que l'État, les corporations, les médias et ainsi de suite vous considèrent comme un ennemi. Vous devez donc apprendre à vous défendre. Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle.
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui esclave un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excusez-moi, c'est une mauvaise blague.
Que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Nous sommes dimanche soir, il est 23h et bientôt 15 minutes. Et ce soir, nous allons poursuivre notre entreprise de cours d'autodéfense intellectuelle que nous avons déjà effectué à deux reprises lors des deux précédentes émissions. Là, cette fois-ci, il s'agira du troisième et dernier épisode concernant l'autodéfense intellectuelle. Alors, pour situer un petit peu le contexte de tout ça, en fait, je me suis énormément inspiré en grande partie d'un bouquin qui est sorti aux éditions Luxe, écrit par Normand Baillargeon, qui est un Québécois. Petit cours d'autodéfense intellectuelle, donc voilà comment se prénomme le livre. Et c'est un bouquin qui est super intéressant, qui fait environ 300 pages, qui est scindé en plusieurs parties, donc on n'est pas obligé de le lire d'un trait, comme un gros roman, un gros pavé, pour ceux à qui la grosse littérature peut faire légèrement peur. C'est un petit bouquin avec plein de choses qui sont détaillées, plein de thèmes différents, la perception, la propagande, plein de choses différentes. Donc même si on n'a pas envie de se taper le pavé de 300 pages, qui est quand même un format assez réduit, hein, c'est pas un gros livre, on peut prendre juste les parties qui nous plaisent et essayer de se documenter là-dessus. C'est super intéressant, donc je le recommande recommande chaudement à tout le monde. Alors ce mec, Normand Baillargeon, personnellement j'en ai entendu parler dans un film qui est sorti il y a, il me semble, 5-6 ans, un DVD qui est d'ailleurs disponible, et ce film d'ailleurs est visible sur internet en streaming. C'est le film produit et réalisé par Daniel Mermet qui s'appelle Chomsky et compagnie. Puisque Noam Chomsky a parlé un jour d'autodéfense intellectuelle, c'est un peu ce que je vous expliquais dans l'intro, c'était ce que je vous lisais, c'était une phrase de Noam Chomsky qui répondait à une question sur l'autodéfense intellectuelle où on lui demandait comment se prémunir contre la propagande des médias. Il disait donc qu'il fallait se prémunir en se défendant intellectuellement, en préservant son indépendance intellectuelle pour arriver à conserver un avis et ne pas se laisser influencer par les corporations, les gouvernements ou plein d'autres choses différentes. Voilà un peu pour resituer. Donc lors des précédentes émissions, on a évoqué cela sous des thèmes différents. On a parlé un peu par exemple de quoi a-t-on parlé d'ailleurs ? Des mots. Par exemple, du jargon. Pour resituer un peu, hein, je vais peut-être avoir tendance à me répéter légèrement par rapport aux deux précédentes émissions, mais c'est pour ceux qui les ont loupées. Donc l'autodéfense intellectuelle, c'est comme je disais, préserver son indépendance d'esprit, son sens critique, se prémunir contre le flot d'informations, déchiffrer la manière dont on nous passe des messages pour comprendre pourquoi on nous les passe de telle ou telle manière, comprendre les mauvaises argumentations, les argumentations fausses ou manipulatrices, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le sophisme. Et pour essayer de comprendre ce qu'est l'autodéfense intellectuelle, je reprends souvent cet exemple de Carl Sagan qui disait c'est comme si quand vous receviez des infos télévisuelles ou radio diffusées ou dans la presse écrite, vous recoupiez ça comme lorsque vous voulez acheter une voiture d'occasion à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous essayez de vous documenter, de bien comprendre ce qui s'est passé sur la voiture, si vous n'avez pas de preuves, vous êtes beaucoup plus sceptique, etc. Ou alors, tout simplement, c'est une manière aussi, lorsque vous avez deux amis qui ont un litige entre eux, d'essayer de comprendre le point de vue des deux et de garder votre indépendance d'esprit pour ne pas vous laisser influencer par les deux. C'est comme ça qu'on pourrait grossièrement définir ce qu'est l'autodéfense intellectuelle. Alors j'ai essayé d'évoquer ce dont j'ai déjà parlé dans les premières émissions, avant de m'embrouiller un petit peu le cerveau. Donc on a parlé des mots, notamment de ce qui est énormément utilisé, les euphémismes, les litotes, hein, quand on utilise un type de mot plutôt qu'un autre, des synonymes beaucoup plus intéressants selon l'idée qu'on veut faire passer, des mots connotés. On a également parlé de l'avènement, de l'arrivée des premières entreprises de relations publiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui les entreprises de communication, comme qui ont été créées par un certain Édouard Bernays. J'ai passé notamment des documents audio. On a parlé aussi de l'autodéfense face à l'autorité, puisqu'on a parlé de l'expérience de Milgram, ou aussi l'expérience de H, donc qui est aussi une forme d'autorité, puisque c'est l'autorité face au groupe, enfin l'autorité du groupe sur sa propre personne. On a évoqué aussi d'autres petites expériences, mais sans rentrer dans les détails, c'était juste pour évoquer tout ça. On a parlé également de l'autorité de la pub, des scientifiques dans la pub aussi. Et voilà, je vous invite à voir tous les documents que j'ai publiés sur la page Facebook, notamment sur l'expérience de H, de Milgram. Il faut aussi que je publie le jeu de la mort, le jeu télévisuel qui était fait sur France 2, qui est un copier-coller de l'expérience de Milgram, mais adapté à nos jours avec le pouvoir de la télévision, où les résultats ont été encore plus significatifs. Et aujourd'hui, ce qu'on va évoquer, c'est ce qu'on appelle l'auto-désinformation, l'auto-manipulation. Les tours que peut nous jouer notre propre perception, notre propre expérience de la vie par rapport aux informations qui nous sont données. Alors pour illustrer ça, je vais citer une petite phrase de Sigmund Freud, ce cher Sigmund, hein, qui disait « J'ai fait cela, dit ma mémoire, c'est impossible, dit ma conscience, et c'est ma mémoire qui cède ». Voilà, c'est comment on se contraint par rapport à nos propres perceptions à croire une chose qui nous arrange. Ce qu'on pourrait appeler le maquillage, foutre dans le subconscient des choses qui nous font peur ou qu'on a envie de nier ou qui ne nous intéressent pas. Voilà, on pourrait aborder l'auto-désinformation ou l'auto-manipulation par différents aspects en essayant déjà d'expliquer ce que c'est. C'est tout simplement lorsqu'on voit quelque chose... on a l'impression de voir quelque chose dans une situation et on se rend pas compte qu'on peut être manipulé par nos propres perceptions et notre propre expérience de la vie. On voit parfois dans une situation ce qu'on a envie d'y voir parce qu'on a envie de se donner raison, parce qu'on n'a pas envie de se contraindre, on n'a pas envie de se contredire soi-même et on a envie de croire jusqu'au bout à nos idées. Et dans certaines situations, on va prendre, selon ce qu'on observe, les points qui nous intéressent sans s'en rendre compte, hein, c'est toujours un peu inconsciemment, hein, mais on va, les informations qu'ils vont ressentir sont celles qui nous arrangent et qui corroborent un peu l'idée qu'on se fait de la vie et de notre expérience. Alors comment vous expliquer un peu ça, si je pouvais donner un exemple, une illustration? Quelqu'un qui voit qu'il y a une inondation, par exemple, dans je sais pas quel coin de la France, il y a une personne qui va avoir, par rapport à son vécu et son idée, va dire directement mais ça c'est le réchauffement climatique, c'est pour ça qu'on a des inondations. Une autre personne va se dire oui, non mais c'est parce que les égouts sont super mal entretenus, ou etc. Enfin, selon la perception et le mode de vie que chaque personne a, il en tirera des conclusions différentes. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-désinformation, l'auto-manipulation, plus dans ce cas-là. Donc on se base à notre propre expérience en fonction de la vie. Par exemple, toi, j'avais utilisé aussi un exemple un peu grossier, peut-être un peu caricatural, mais si jamais par exemple la seule fois dans votre vie vous avez rencontré un animal dangereux, ça s'est super bien passé et que vous en gardez un bon souvenir et que pour vous l'animal restera toujours quelque chose de non dangereux, et ben vous vous trompez, votre propre perception et votre propre expérience de la vie vous conduit à l'erreur en fait. Il y a plein d'autres exemples comme celui-ci, hein. J'essaye de donner celui-là parce que c'est ce qui est le plus pratique à comprendre. Ou alors, dans certains cas aussi, pour passer un peu à autre chose après notre expérience, c'est selon ce qu'on essaye de chercher dans une situation, ce que l'on demande de chercher, ce qui nous intéresse, on perçoit pas des choses qui se passent autour, on les zappe, on ne s'en rend pas forcément compte. Notre attention, en fait, elle est construite, notre perception aussi, à certains moments, parce que l'on cherche quelque chose, on est attentif à une chose. Je sais pas comment illustrer ça, alors je vais l'illustrer un peu après avec un petit document où on en entend Daniel Mermet qui pose des questions à Normand Baillargeon pour un peu illustrer tout ça. Mais pour illustrer un peu ce que peut être l'auto-manipulation et les perceptions, j'ai cette petite phrase que, il me semble, j'ai déjà dit la dernière fois, mais qui me plaît beaucoup, donc que je vais redire. Je vais changer la musique parce que ça me saoule un peu. Voilà. Alors cette phrase, c'est 4 hommes qui visitent l'Australie. Enfin, ce petit article, ce n'est pas juste une phrase. 4 hommes qui visitent l'Australie pour la première fois. En voyageant en train, ils aperçoivent le profil d'un mouton noir qui broute de l'herbe. Le premier homme en conclut que les moutons australiens sont noirs. Le deuxième prétend que tout ce que l'on peut conclure, c'est que certains moutons australiens sont noirs. Le troisième objecte que la seule conclusion possible est que, en Australie, au moins un mouton est noir. Et le quatrième, qui lui est un sceptique, conclut qu'il existe en Australie au moins un mouton dont au moins un des côtés est noir. Voilà, c'est un petit peu une caricature, mais c'est pour illustrer ce que peut être la perception d'un événement selon la personne qu'on est. Il y a le quatrième qui est sceptique, qui donc voit vraiment ne tire de conclusion que de ce qu'il vient vraiment de voir, de ce qu'il peut constater clairement. Et les autres qui ont tendance à soit tirer des conclusions un peu trop hâtives, ou alors à être un peu plus modérés en fonction. Donc dans ces trois personnages, on a tous tendance à se reconnaître. Personnellement, moi je pense que je serais dans la troisième personne. Je lui dis bon, bah, j'ai vu un mouton et il était tout seul. Mais après, le quatrième est un ultra sceptique, puisque lui, en voyant un mouton noir, il en conclut que c'est juste un des côtés du mouton qui est noir. Pourquoi pas, après tout, ça lui permet de se préserver aussi. Voilà, alors je disais donc qu'on allait laisser un peu la parole à Normand Baillargeon, qui va nous expliquer comment on peut s'auto-désinformer et comment nos perceptions à certains moments sont construites. Vous allez voir, c'est super intéressant. Attention, on envoie.
Alors, parmi la façon dont cette désinformation nous gagne et nous domine, il y a aussi par nous-mêmes, hein, on a évoqué la Boétie, mais il y a aussi notre propre appréciation, notre propre façon de nous référer à nous-mêmes pour comprendre le monde autour de nous, qui peut être tout à fait faussée. C'est-à-dire que si on ne se fie qu'à notre propre perception, on peut tout à fait s'auto-désinformer, si on peut dire.
Oui, c'est vrai, il faut se méfier de soi-même, puis comme je le dis dans le petit cours aussi, s'il y en a qui l'ont lu, il faut se méfier des auteurs de petits cours d'autodéfense intellectuelle, ça je tenais à dire. Oui. Non, mais effectivement, le recours à l'expérience personnelle est quelque chose qui, vous savez, on tend facilement à valider par l'expérience personnelle nos croyances, comprends? Et on prend pas suffisamment le temps de se rendre compte que notre expérience personnelle peut être trompeuse. Et là, c'est une leçon importante de psychologie que de savoir ça, tu comprends? On peut très facilement se tromper. Je raconte un truc, peut-être que vous le croirez pas, mais chez vous, sur Internet, vous pouvez aller le voir. Un professeur de psychologie récemment a fait une vidéo, on mettra en ligne, si vous voulez, l'adresse du vidéo, vous pouvez aller le voir, vous arrivez là, et vous dites à votre ami, tiens, à toi par exemple, tu sais, mon cher Christian, tu vas regarder ce vidéo-là qui dure 45 secondes à peu près, et dans le vidéo, tu vas voir deux équipes de joueurs, des équipes qui sont vêtues d'un t-shirt blanc, des équipes vêtues d'un t-shirt noir. Chacune des équipes a des ballons de basketball et ils se font des passes. OK? Ils se font des passes par le sol ou ils se font des passes de main à main. Je veux que tu comptes le nombre de passes que se feront de main à main ou par le sol les membres de l'équipe des Blancs et les membres de l'équipe des Noirs. Ça va? Toi ou un ami va regarder cette vidéo-là, tata, puis là, très vite, tu vas dire, ah, je suis mélangé, j'y arrive plus, je perds le compte, c'est compliqué, gna gna gna. À la fin du vidéo, qui dure moins d'une minute, tu demandes à ton ami, que faisait le gorille? Et ton ami dit, il n'y a pas de gorille. Et tu dis, attends, on va le refaire. Et on remet le vidéo. Et là, tu vois les gens se faire des passes. Et à un moment donné, tu vois arriver en scène devant la caméra un homme très grand, vêtu d'un costume de gorille noir. Et il se met en plein milieu et il se tape sur la poitrine. Et il te fait des babayes et il s'en va. Et personne ne le voit. Personne ne le voit. Et vous savez pourquoi personne ne le voit? Personne ne le voit parce que la tâche à laquelle on est attelé est tellement complexe et on est tellement mobilisé dessus qu'on construit notre perception. Alors, notre perception, elle est construite et on tend très, très souvent à l'oublier, ça. Alors, dans le discours, il y a plusieurs exemples comme ceux-là pour montrer que notre perception directe, notre mémoire aussi, l'appel à notre mémoire peut être profondément trompeur. Et vous avez raison de dire que notre expérience personnelle peut être trompeuse dans ce sens-là. Mais il y a un deuxième sens aussi, Daniel, où on pourrait dire que l'expérience peut être trompeuse, c'est que si on se fie uniquement à ce qu'on vit autour de nous pour juger de l'ensemble de notre société, on a une vision souvent extrêmement limitée, tu comprends? D'où l'expérience, l'importance d'avoir des relations avec d'autres, de discuter avec d'autres. Et moi, je pense profondément qu'une des raisons pour lesquelles le militantisme n'a pas tout le succès qu'on souhaiterait, c'est que notre société a réussi à nous isoler, à faire en sorte qu'on est chacun de notre côté. On regarde la télé tout seul, chez soi, le soir, soit, et il nous arrive de penser que oui, peut-être que ça n'a pas tout à fait de sens ce qu'on nous dit là, mais étant seul, on n'arrive pas à discuter, à échanger avec d'autres. On est limité à notre propre expérience, tu comprends? Alors donc, non seulement sur le plan de l'expérience personnelle, mais aussi sur le plan de la vie politique. La sphère du politique suppose qu'on fasse ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on soit ensemble en train de discuter et qu'on puisse échanger avec d'autres, recevoir le point de vue des autres. Et une des forces de notre système de propagande, je pense, c'est de nous avoir isolés à un point où c'est devenu très rare que d'avoir ce type de rapport-là.
Voilà, normalement, Bayarjon qui vous expliquait un peu la perception en vous parlant d'une vidéo qui est trouvable sur Internet. D'ailleurs, je mettrai le lien pour tous ceux qui sont sur la page Facebook. Alors, j'ai oublié de le dire d'ailleurs au début de l'émission, j'ai oublié de repréciser tout ça. Alors, je vous rappelle que pour Les Yeux Grands Ouverts, il y a une boîte mail qui s'appelle comme ça, Les Yeux Grands Ouverts, tout au pluriel, @laposte.net, grand avec un S, ouvert avec un S, ça me vient tout au pluriel. Vous avez aussi, donc, je disais, la page Facebook. Vous allez sur Facebook. Pour ceux qui sont sur le réseau social, vous tapez Les Yeux Grands Ouverts et vous mettez j'aime. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut dans le fil d'actualité, l'info sur toutes les émissions qui seront produites le dimanche et des documents annexes aussi que je fais tourner de temps en temps, comme j'ai fait par exemple la semaine dernière pour l'expérience de 1000 grammes. Là, par exemple, il serait le cas d'une petite vidéo qui est faite par un psychologue américain. Alors son nom c'est Daniel G. Simmons. Alors la vidéo dont parle Normand dans le documentaire là, elle s'appelle The Monkey Business Illusion. En fait, ce qu'il explique, c'est vraiment que vous êtes en train de regarder une vidéo avec des gens qui se font des passes. Et si vraiment, bon, maintenant, du coup, vous savez qu'il y a un moment où il y a un gorille qui va passer, parce que Monsieur Bayarjon le dit, votre perception sera moins construite par rapport à la chose qu'on va vous demander, c'est-à-dire à compter les passes que se font les joueurs d'une équipe entre eux. Et donc, du coup, vous allez forcément le voir indirectement. Vous allez le voir en fond. Mais voilà. C'est quand même intéressant d'aller jeter un œil parce qu'il y a plusieurs vidéos, donc ça je le ferai au pire, je le mettrai sur la page Facebook. Mais pour ceux qui veulent y aller, si vous allez sur le réseau social, sur le site de diffusion de vidéos, il y en a deux. Hein, bon, vous allez sur celui qui est américain. Vous tapez The Monkey Business Illusion et vous allez voir de plusieurs vidéos comme ça où on vous demande de faire quelque chose. Vous allez compter le nombre de passes et on va vous poser d'autres questions sur ce qui s'est passé pendant la vidéo. Vous vous rendrez compte que votre perception elle est construite et qu'au final vous avez tendance à zapper certaines choses qui se passent autour de vous, ce qui est totalement normal. La conclusion à en tirer dans tout ça, c'est que forcément on est influencé par ce qu'on cherche à voir dans certains moments. En plus, ce qu'on peut tirer comme conclusion supplémentaire par rapport à ce que dit Normand Baillargeon dans la fin du truc, c'est que quand on est limité à notre propre expérience, et c'est ça aussi qui fait la force de la société moderne et des classes dominantes, c'est qu'on est un peu tous dans notre coin devant la télé et qu'on est limité à notre propre expérience. C'est pour ça que c'est super important de discuter de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on regarde et de partager avec les autres pour s'éclaircir un peu les idées. Voilà, voilà. Alors, pour approfondir un peu, hein, toute cette idée de l'expérience, qu'évoquait Normand Baillargeon dans le petit document que je vous ai passé, interviewé par Daniel Mermet, qui est d'ailleurs petit document qui est issu du film Chomsky et compagnie, que je recommande aussi chaudement à tout le monde. On va feuilleter un peu ce petit bouquin d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, et on va commencer à lire l'expérience personnelle. Alors, il dit tout ça pour introduire un peu l'histoire de la perception. Pour l'illustrer, il dit « Je l'ai vu de mes yeux vus. Nous en appelons souvent ainsi à notre expérience personnelle pour justifier une croyance. Telle chose existe ou bien s'est produite, comme je dis, et la preuve en est que je l'ai vue. Plus généralement, on arguera que telle chose est bien, telle qu'on la donne, parce qu'on en fait l'expérience à travers nos sens. Je l'ai vu, entendu, senti, touché, goûté. Il n'y a pas de doute que l'expérience personnelle et son souvenir soient une des sources de notre connaissance empirique et immédiate. Pas de doute non plus qu'elle entre en jeu dans l'élaboration du savoir scientifique. » D'ailleurs, il est raisonnable de penser que le fait de pouvoir s'orienter correctement dans le monde par nos sens, en distinguant le réel de l'illusoire, le vrai du faux, nous confère un énorme avantage évolutif. Dès lors, il n'est pas étonnant que nos organes de perception soient de si formidables machines assez fiables pour nous permettre d'agir efficacement sur le monde. Souvent, il n'est pas donc a priori absurde, loin de là, d'invoquer notre expérience personnelle pour justifier des croyances. Il a pris du poids, par exemple. Donne un exemple. Il a pris du poids, je le sais, parce que je l'ai vu. Le village, est à 50 km de la ville, je le sais, j'en viens. Voilà, des exemples divers comme cela. Pourtant, le recours à l'expérience personnelle pour justifier nos croyances n'est pas sans danger. La connaissance qu'on en tire est limitée. Surtout si on la compare à des formes de savoir plus systématiques, en particulier la connaissance scientifique. En fait, l'expérience personnelle est loin de toujours conférer à nos croyances le degré de certitude qu'on voudrait fonder sur elles. Chacun de nous sait d'ailleurs, très bien, que nos sens peuvent nous tromper. Notre souvenir de ne pas correspondre à ce qui s'est vraiment passé, par exemple. Notre jugement peut s'avérer erroné. Il est donc important de connaître et de comprendre les limites du recours à l'expérience personnelle pour justifier les croyances. Il y a même lieu de penser que la prolifération de tant de croyances irrationnelles trouve dans la méconnaissance de ses limites un de ses terreaux privilégiés. Nous en examinons ici un certain nombre, présentés sous trois rubriques, etc. etc. Il présente les rubriques qu'il y a dans la suite de son livre sur les perceptions. Voilà tout ça pour illustrer un peu, introduire le sujet. Par exemple, ensuite, il évoque dans le début de la perception un autre sujet c'est qu'il parle d'un psychologue qui a fait un cours et qui demande aux personnes, il leur pose quelques questions vite fait comme ça, et il leur fait un peu un travail d'astrologie indirectement, mais sans leur dire que c'est ça. En fait, il leur pose quelques questions sur leur personne. Il rédige carrément des fiches complètes où il décrit les personnes comme il les a comprises. Il estime et il essaye de faire croire aux élèves qu'il a compris exactement qui ils étaient et où ils voulaient aller, etc., etc. Et ensuite, il fait croire, du moins qu'il rédige ce truc-là. Et ensuite, il rend à tous les élèves de sa classe des pages de prévisions astrologues. Comme vous pouvez trouver dans certains journaux ou n'importe quoi à la fin, l'horoscope, etc. Il prend des trucs comme ça sur n'importe quelle personnalité qui n'ont absolument rien à voir avec les personnes qui sont dans son cours. Enfin, du coup, il a fait aucun rapprochement avec ça. Totalement au hasard. Il donne aux personnes les petites fiches qu'il a faites sur ces horoscopes-là, en faisant croire que c'est par rapport à ce qu'on lui a raconté qu'il a tiré ces conclusions-là. Et toutes les personnes, une fois qu'ils reçoivent ce papier, alors je me rappelle plus le chiffre exact, il me semble que c'est 9 personnes sur 10 qui se reconnaissent complètement dans la description qui est faite sur le papier, alors qu'en fait, le psychologue, la seule chose qu'il a faite, c'est copier-coller ce qu'il a trouvé dans un journal sur un horoscope et dire aux gens, bah voilà, c'est comme ça que je vous vois. Et en fait, bah, c'est totalement faux. Pour dire à quel point on construit nos perceptions. Voilà pour illustrer un peu. Alors il y a un autre aspect qu'on peut aussi évoquer, c'est ça aussi une chose qui est dans le livre, c'est voir du coin de l'œil une porte orange par exemple. La recherche met en évidence de manière très convaincante le fait que de savoir que le savoir joue un rôle crucial dans la perception de la constance, non seulement des couleurs et des grandeurs, mais aussi des positions et des formes. Le cerveau prend en compte ce qui est connu de l'objet et construit une perception fondée à la fois sur l'input sensoriel et le savoir. Pendant que, par exemple, vous êtes assis en train d'écrire, il y a une porte orange qui est ouverte à votre gauche. Vous voyez cette porte du coin de l'œil et vous savez distinctement qu'elle est colorée. Et cela, même si la lumière qui réfléchit la porte aboutit à une partie de la rétine où on ne trouve pas de récepteur de couleur. Mais sauf que comme vous la connaissez, la porte, ben, dans votre regard, dans votre pensée, cette porte qui vous est familière, votre cerveau construit une perception là-dessus et il vous fait voir qu'elle est orange. Alors qu'en fait, vous, du point de vue où vous êtes placé, vous ne savez pas qu'elle est orange, vous ne pouvez pas le voir parce que votre œil ne vous le permet pas. Donc ce phénomène, c'est pour montrer en fait les perceptions qu'on peut avoir selon le souvenir, en plus, parce que là c'est une question avec la mémoire, c'est un rapprochement avec la mémoire. Votre mémoire vous dit que la porte est orange, et même si vous êtes dans une position où vous ne pouvez même pas le voir ni le prouver, vous en êtes persuadé, vous êtes même persuadé de le voir. Voilà. Après, là-dedans, on pourrait parler aussi des illusions d'optique, hein. Il a notamment quelques chapitres là-dessus, enfin quelques pages là-dessus, qui sont assez intéressantes. On a tous souvenir, je sais pas si vous avez vu ça, on remarque que je dis ça comme ça, on dit on a tous, mais je sais pas ce que vous avez vu, des petites images comme ça qui trompent l'œil, des trompe-l'œil, on en voit de partout, il suffit de taper sur internet, vous tombez sur un paquet de trucs comme ça, avec des dessins par exemple qui sont un peu étranges, on a l'impression de distinguer une chose clairement, par exemple un visage, et on s'aperçoit que quand on commence à retourner un peu la feuille ou qu'on modifie notre perception de notre vision, et ben on voit une chose totalement différente dans le dessin. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut vraiment faire attention à tout ça et se méfier parce que notre esprit nous fait voir à certains moments ce qu'on veut voir, mais aussi tout simplement si on arrive à modifier sa perception. On peut voir des choses différentes, mais il n'est pas évident de le faire tout seul. Voilà, alors on va se passer un petit morceau là pour souffler un petit 5 secondes. C'est un morceau d'un groupe de emocore qui s'appelle Thursday et le nom du titre c'est War All the Time. Voilà, allez, c'est parti. Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Et nous sommes toujours en train de faire un petit cours d'autodéfense intellectuelle pour la troisième émission de suite. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, j'ai oublié de l'évoquer en début d'émission, mais je vous rappelle que Radio Canu fait un appel aux dons, puisque en ce moment les loyers sont de plus en plus chers sur Lyon et que l'activité de la radio voudrait que, enfin, nous voudrions que l'activité de la radio du moins soit pérennisée. Donc nous demandons un petit soutien. Alors vous pouvez envoyer vos dons à Radio Canu, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, des chèques, etc. Vous pouvez aller voir directement sur le site si vous avez envie. Ou alors vous pouvez aller sur... Vous pouvez nous envoyer du courrier, pardon, à Radio Canu, boîte postale 1101, 69201, Lyon, CEDEX 01. Voilà, on est preneur pour les dons, pour arriver à acheter un local pour la radio et pérenniser notre action et conserver surtout notre indépendance. Voilà, voilou, le petit mot est passé, le petit message est passé. Donc je vous rappelle que les yeux grands ouverts sont dispo sur Facebook, qu'il y a la boîte mail les yeux grands ouverts @laposte.net, qu'on a aussi le blog, puisque j'en ai pas encore parlé, j'en ai pas parlé aujourd'hui, enfin ce soir, mais j'en avais parlé la semaine dernière et les semaines d'avant, où vous pouvez retrouver tous les podcasts, qui s'appelle aussi Les Yeux Grands Ouverts, hein, le blog. Autrement, vous allez sur le site de Radio Canu, vous cliquez sur Les Yeux Grands Ouverts, vous allez tomber sur le blog directement avec tous les podcasts. Voilà, voilà, pour les petites précisions. Donc, juste avant, on était en train de parler des perceptions, avec notamment cette vidéo de The Monkey Business Illusion, que vous pourrez voir sur Internet et qui vous sera transmise sur la page Facebook. On va poursuivre un peu ce petit cours d'autodéfense intellectuelle et on va essayer d'évoquer un autre aspect qui, celui-là, est les chiffres. On entend souvent parler des chiffres. On en entend toute la journée, d'ailleurs, de partout, à la télé, à la radio, même dans les médias écrits. Hein, on en entend, on en voit, on en lit, comme vous voulez, vous pouvez prendre par tous les aspects. Et donc, il faut pas, notamment, c'est Normand qui en parle dans le bouquin ou quand il est interviewé par Daniel Mermet, il dit qu'il faut pas, il ironise un peu sur les maths, parce que c'est vrai qu'une, beaucoup de, enfin, une partie de la population a tendance à avoir peur des mathématiques parce que c'est quelque chose qui peut paraître à premier abord un peu compliqué. On a un peu aussi, parfois, la flemme de réfléchir et d'essayer de calculer certaines choses que lui, il appelle les mathophobes, hein. On en a, on en connaît tous, on est peut-être des mathophobes. Moi, j'ai été mathophobe aussi, hein. Quand on voit direct des calculs, on a tendance à se tirer en courant parce qu'on se dit, oulala, non, c'est bon, c'est trop compliqué, ça me saoule. Et lui, il pense, Normand Baillargeon, que c'est une très très grave erreur de vouloir zapper les chiffres et de pas s'y intéresser. Pour lui, selon lui, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire dire aux chiffres et prendre le temps de recompter quand parfois on nous donne des chiffres. Parce que c'est bien beau, on entend dire que si, que là, par-ci, par-là. Et à la fin, si on réfléchit 5 minutes, notamment sur certains chiffres qui nous sont donnés, on se rend compte qu'il y a des grosses incohérences. Et en plus, taper des petits calculs très rapides, c'est souvent largement à notre portée, c'est juste une flemme du premier abord, mais si on réfléchit 2 secondes, on peut sans problème s'informer plus en profondeur. Il donne par exemple l'exemple d'un professeur qui, lors d'un colloque dans les années 2006, indiquait que, par exemple, 2000 enfants à l'heure mouraient tous les jours en Irak à cause des bombardements des Américains. Alors on sait bien sûr que l'objectif, c'est pas du tout de défendre la thèse contraire, hein, bien entendu. On sait que ce qui se passe là-bas, c'est totalement ignoble, qu'il y a eu beaucoup de morts civiles, d'ailleurs on va en parler un peu plus après. Mais bon, quand même, quand on se dit 2000 enfants à l'heure qui meurent tous les jours en Irak, ça fait un peu beaucoup. Donc le calcul, il est faisable pour tout le monde, pour n'importe qui, il suffit de se poser 2 secondes, de réfléchir. Alors on se dit 2000 morts par jour, 2000 enfants morts par jour, fois 24 heures, 2000 fois 24, fois 365 par exemple, pour le nombre de jours dans l'année, et vous faites un calcul, et finalement, en faisant ça, en faisant ce calcul, on tombe à 17 520 000 morts, enfants civils morts, hein, par an. Ça fait quand même un petit peu beaucoup quand on sait que la population irakienne est au total de 36 millions de personnes. Enfin, 36 millions et 4 000 et des brouettes. Enfin, voilà. En gros, 36 millions. Ce qui voudrait dire qu'en fait, tous les ans, la moitié de la population irakienne, qui est en plus, il faut en plus arriver à, comment dire, à admettre que la moitié de la population soit des enfants. Hein. Ça voudrait dire que la moitié de la population sont des enfants et que cette moitié-là meurt tous les ans. C'est donc impossible, puisque la moitié de la population irakienne ne meurt pas tous les ans, même si ce qui se passe là-bas est totalement horrible. Donc il faut toujours prendre le temps de se poser la question 2 secondes et d'essayer de recompter ce qu'on nous raconte. Et surtout, compter est déjà une chose, mais la question qu'il faut aussi se poser quand on nous donne des chiffres, c'est qui a compté, comment il a compté. Et il donne par exemple un autre exemple là-dessus, toujours sur le même sujet, sur la guerre en Irak, pour corroborer par exemple la thèse plus opposée, hein, pour dire ce que tout le monde sait, que là-bas ce qui se passe est horrible, mais sans exagérer bien entendu, sans donner des faux chiffres. Dans le même genre par exemple, il y avait des infos qui tournaient pas mal dans les années pareilles, hein, 2006-2007, des infos qui tournaient pas mal sur le décès des civils en Irak. Il y avait une fourchette qui était donnée, qui était de 30 000 à 40 000 morts depuis le début de la guerre. D'où sortait ce chiffre-là? Alors, il s'est creusé un peu la tête, il a cherché un peu, et il s'est rendu compte, Normand Baillargeon, que, en fait, ces chiffres, ils sortaient de la Maison Blanche, tout simplement. Que c'était les chiffres qui étaient donnés par Bush quand il faisait des conférences de presse et qu'il faisait un peu le point sur ce qui se passait en Irak. Alors que, au tout début du conflit, la Maison Blanche avait communiqué, je le dis en américain dans le texte, attention, we don't do body count. En gros, traduction, on ne compte pas les cadavres. Donc, l'administration qui disait au départ de la guerre, nous n'avons pas l'intention de compter les cadavres, c'est elle qui communique sur le nombre de morts civiles qu'il y a eu pendant le conflit, qu'il y a pendant le conflit, puisqu'à ce moment-là, il était encore en cours. Il y a donc toutes les raisons de suspecter ces chiffres-là, parce qu'on se dit, oui, ben ok, déjà, ils sont totalement partis pris dans l'histoire, il y a carrément un conflit d'intérêts de fou, et en plus, c'est eux qui nous donnent les chiffres alors qu'ils étaient censés pas compter les morts. Donc, derrière, il y a d'autres études qui ont été faites, totalement différentes. Deux études qui ont été lancées, enfin derrière, un peu avant, enfin il y a d'autres études qui ont été lancées, en 2004 et en 2006. Il y a une étude qui a été menée sur le nombre de décès de civils pendant cette guerre par des scientifiques qui sont épidémiologistes, voilà, donc qui s'occupent des épidémies, qui avaient des outils très sérieux, hein, des outils statistiques, des outils très précis pour mesurer tout ça, les mêmes genres d'outils qu'ils utilisent pour mesurer les décès dans une épidémie et les contaminations. Il publiait en plus ses résultats dans une revue scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les revues scientifiques, pour la plupart, sont très rigoureuses. On peut pas publier dans une revue scientifique, enfin dans n'importe quelle revue scientifique, surtout dans celle-ci, parce que c'était une revue scientifique avec un comité de lecture qui vérifiait la cohérence des études qui étaient menées. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des incohérences scientifiques dans votre étude, vous êtes retoqué direct. On vous dit non, vous pouvez pas publier dans la revue scientifique. Et les résultats qui ont été obtenus par ces personnes-là, par ces scientifiques, sont pas du tout les mêmes que ceux de l'administration américaine. Et eux, ils arrivaient à environ 650 000 morts civils à cause des bombardements et de la guerre. Voilà. Je rappelle que ces chiffres viennent de date de 2004 et 2006, hein, ces deux études. Donc c'est 2006, la dernière étude, qui donnait 650 000 morts. Voilà. Alors on est toujours sur ce thème des chiffres et on va se passer à un autre petit document audio. Celui-ci est super récent. Il date d'il y a deux semaines, il me semble. C'est passé à la télévision française sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché, de présenté par Laurent qui est le samedi soir, et il y avait Éric Zemmour qui était invité et qui, bien entendu, comme souvent, raconte beaucoup de conneries. Et là, il en racontait un peu une, sauf qu'en face de lui, même s'il n'est pas toujours très très rigoureux là-dessus, Émeric Caron l'a coincé. Et donc je vous passe ce petit document qui se passe de commentaires, en fait. Donc je vais me taire. On écoute ce petit extrait qui doit durer environ 4 minutes.
La méthode Zemmour, c'est par exemple une chronique. Ben oui, la chronique sur RTL le 30 novembre 2012, où vous parlez du nombre d'étrangers en France. Et puis vous dites, en octobre dernier, l'INSEE a révélé qu'il y a 5 millions d'étrangers et que leurs enfants de moins de 4 ans représentaient 7 millions. 12 millions! Ces chiffres sont passés inaperçus. Et vous dites, l'alliance entre régularisation de clandestins et intégration familiale est un piège inextricable. Vous assumez ces propos?
J'assume tout à fait.
Quelles sont vos sources?
L'INSEE.
Ok.
L'INSEE. Officiel, l'INSEE.
Ok. Que dit l'INSEE?
C'est dommage pour vous, tout ça.
Ben non, c'est con pour vous, surtout.
Ah oui, alors là, c'est dommage.
L'INSEE. Voilà. Les données de l'INSEE disent qu'il y a 5,3 millions d'immigrés.
D'étrangers.
Eh non. C'est là que vous vous trompez.
Eh non.
Vous ne savez pas la différence.
Si.
C'est quoi la différence entre un immigré et un étranger?
Excusez-moi, dites-le-moi.
Alors. Dites-le, puisque c'est vous qui êtes en train de
m'autoriser. Un immigré, c'est un étranger, voyons.
Un immigré, c'est un étranger.
Ah oui, un immigré, c'est pas un étranger.
Pas du tout.
Ah bon, c'est un Français.
Ça explique un petit peu mieux maintenant pourquoi vous confondez tout, mon cher Eric.
Alors allez-y. Faites-moi la leçon, allez-y.
J'adore. Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France.
C'est faux. C'est un immigré qui vient de l'étranger. Excusez-moi.
C'est ce que je viens de dire.
Bah alors.
Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas.
Il n'y a pas 5 millions d'immigrés.
C'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France.
Mais dans ce cas-là, il y a 20 millions d'immigrés.
Non, vous confondez tout. Vous confondez les enfants d'immigrés avec les immigrés.
Il y a 5 millions d'étrangers.
Non, il y a 5 millions, 3 millions
c'est
d'immigrés.
Faux. C'est faux.
Car parmi ces immigrés, certains sont devenus français.
C'est faux, pas dans les 5 millions.
Et si.
Et non.
5,3 millions d'immigrés c'est vivant faux. En France, c'est parmi faux. Lesquels 2,2 millions ont acquis la nationalité française. Il reste donc en France 3 millions d'étrangers. Leurs descendants directs qui vivent en France, précise l'INSEE, sont au nombre de 6,7 millions. La quasi-totalité d'entre eux sont français.
C'est faux.
Si on vous écoute, il y a 12 millions d'étrangers en France. En réalité, il y en a 3 millions.
C'est fou. Mais vous êtes formidable.
Vous confondez tout.
Mais voyons.
Alors et c'est vos amalgames, mais vos voyons. Approximations,
alors,
vos chiffres non sourcés, Eric.
C'est faux. Les 5 millions, j'ai eu la dépêche de l'INSEE entre les mains, ce sont des étrangers.
Des immigrés.
Deuxièmement, vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Deuxièmement, les enfants qui sont 6 millions, 7 ou 7 millions, qui sont moins de 4 ans, donc jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas français. Ils sont étrangers, que ça vous plaise ou non. Ils seront français à 18 ans s'ils ils refusent leur nationalité française. Et troisièmement, c'est vous qui trafiquez les chiffres, et je vais l'expliquer très simplement. Très simplement. Si on prend 100 millions d'Africains, on les fait venir en France, ils sont étrangers, et on leur donne à chacun la nationalité française et la carte d'identité française, il y aura toujours le même nombre d'étrangers. Seulement, ça sera un autre pays avec un autre peuple.
Vous ne répondez pas à ma question
sur
la véracité des chiffres. Vous transformez les concepts.
Mais je n'ai absolument pas transformé.
Vous transformez les concepts d'immigrés, d'étrangers. Quand vous dites, par exemple, les enfants d'étrangers,
oui.
Les enfants de moins de 4 ans...
Ils ne sont pas français.
Les enfants... Non, 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 même les chiffres, les chiffres, oui. Les chiffres. Les enfants de moins de 4 ans représentent 7 millions.
Oui.
7 millions.
Excusez-moi, 6 millions, 7 ou 7 millions, c'est pareil.
Non, non, les enfants de moins de 4 ans.
C'est écrit dans la dépêche de l'INSEE, je vous la ressortirai.
Il n'y a rien qui vous choque. On est combien en France?
On est combien en France?
Combien d'habitants en France?
65 millions.
65. Et à votre avis, il y a vraiment en France 7 millions parmi ces 65 qui ont moins de 4 ans déjà? Parmi
c'est
tous les Français.
C'est la dépêche de...
Non mais
c'est
réfléchissez une seconde, réfléchissez une seconde.
Non, je ne suis pas aussi intelligent que vous, moi. Moi, je lis.
Les enfants
donc
de moins de 4 ans.
La dépêche de
les enfants de moins de 4 ans.
C'est
en 2013.
Dans la
les
dépêche enfants de l'INSEE.
En 2013. Vous ne savez pas lire les dépêches apparemment.
Ah voilà.
Parce
je sais
que
pas
moi, j'ai
lire.
Lu les chiffres de l'INSEE.
Non mais je ne sais pas lire. Évidemment.
Les chiffres de l'INSEE au 1er janvier 2013. Les enfants de moins de 4 ans de l'ensemble de la population française n'étaient même pas de 4 millions.
Non, non mais
4 millions.
Je
l'ensemble de la population française. Comment peut-on avoir 7 millions d'enfants d'étrangers en France
la
de moins de 4 ans?
La dépêche de l'INSEE, elle est exactement...
Et ben voilà, vous venez de résumer la qualité de votre travail dans ce livre,
voyons,
Eric.
Mais oui, merci monsieur le professeur.
Et voilà, Éric Zemmour qui se fait tacler par Émeric Caron, totalement légitimement, parce qu'il lui explique qu'en fait tous les chiffres qu'il donne, ils sont totalement faux. Et voilà, c'est vraiment juste, il lui dit juste réfléchissez 5 secondes quand on dit 7 millions d'enfants étrangers de moins de 4 ans. Déjà, il y a même pas d'enfants de moins de, enfin, il y a même pas 7 millions d'enfants de moins de 4 ans en France, donc c'est des conneries totales. Donc c'est voilà ces petites batailles de chiffres qui sont pas énormément intéressantes dans le fond quand on s'y pose, enfin même si les chiffres ils veulent souvent dire quelque chose au final quand même. Là c'est une petite bataille de chiffres de personnes qui veulent défendre une idéologie totalement différente, donc forcément il y a du rentre dedans. Mais le truc c'est juste qu'il faut arriver juste si jamais on n'est pas méfiant et qu'on croit tout le monde sur parole et qu'on recoupe pas et qu'on essaye pas de faire preuve un peu d'esprit critique, bah Éric Zemmour il nous dit il y a 12 millions d'étrangers en France, voilà, bah si on réfléchit pas 5 minutes et bon on se dit que ça peut être possible et il y a 7 millions d'enfants de moins de 4 ans qui sont étrangers, voilà, sauf que quand on réfléchit 5 minutes on se dit oui on est 65 millions en France donc c'est totalement impossible. Voilà pour illustrer un peu tout ça. On peut faire dire d'avoir n'importe quoi aux chiffres quand on les tord, hein. C'est ça un peu qui ressort du truc aussi, c'est que Zemmour il s'est fait avoir parce que Caron a réfléchi et que lui il essayait de tordre les chiffres pour aller bien entendu dans le sens de son idéologie, ce que tout le monde a un peu toujours tendance à faire, il faut être honnête, mais là c'est totalement disproportionné ce qui est dit par Éric Zemmour dans ses chiffres. Alors, on va se passer, il est quelle heure? Il est minuit moins 5, nous allons, donc il nous reste encore 20 minutes d'émission, qu'est-ce que l'on fait? On va continuer un petit peu? Oui, on va continuer un petit peu. Alors, un autre aspect dans ce qu'on appelle l'autodéfense contre les chiffres, de ce qu'on a un peu nommé comme ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres qui sont seuls, qui se baladent, les chiffres qui ne se rattachent à rien. Par exemple, si je vous dis, il y a 80% des gens qui sont contre l'immigration. Voilà, si je vous dis, par exemple, 70% des gens préfèrent telle marque de dentifrice. Ok, ben vous, je sais pas ce que vous en concluez quand je vous le dis juste comme ça, mais si on réfléchit 5 minutes, ce sont des chiffres qui se rattachent absolument à rien. Ils sont tout seuls. 80% des gens n'aiment pas les immigrés, mais 80% de quoi, de qui ? Est-ce que c'est 8 personnes sur 10, 80 sur 100, ou peut-être plus ? Qui a-t-on interrogé pour savoir aussi ? Ou alors par exemple, pour l'exemple des 70% de personnes qui préfèrent telle marque de dentifrice, si on a fait un sondage au sein de l'entreprise par exemple, et qu'on dit ouais, quelle marque vous préférez, machin, etc. Donc forcément les gens qui ont un parti pris vont répondre là-dedans ce qu'ils veulent, mais le sondage sera totalement cramé parce qu'ils ont un intérêt là-dedans et que c'est pas totalement objectif, disons. Si par exemple pour l'immigration on a demandé aussi l'obtention du résultat de ce sondage dans un meeting où il y avait que des gens de droite par exemple, ou si on avait posé cette question à une catégorie de personnes particulières, tout ça, ça doit être précisé. Mais ça ne l'est pas toujours. Alors il y a bien entendu des organismes de sondage qui sont précis et un peu méticuleux là-dessus, qui essaient de trouver ce qu'ils appellent des échantillons représentatifs de la population. Donc tant de personnes de tel âge à tel âge, etc., de tels milieux sociaux. Donc après j'espère qu'ils bossent beaucoup là-dessus, parce que pour arriver à avoir un échantillon qui est vraiment représentatif de la société française, c'est compliqué. Et en plus, même si ça l'était, qu'est-ce qui nous prouve que les gens ont toujours les mêmes avis ? Ça, il y a absolument rien qui nous le prouve. Donc voilà. Mais on sait que dans beaucoup de cas aussi, les sondages ou les chiffres qui sortent comme ça, ils s'attachent à pas grand-chose. Il faut donc toujours se méfier des chiffres et recompter, ou même essayer de se rendre compte que ces chiffres ne mènent à rien et n'interprètent rien du tout, tout simplement en prenant le temps de réfléchir à ce qui nous est raconté. Alors on va donner un autre petit exemple dans le bouquin de Normand Baillargeon sur les chiffres de la comptabilité par exemple. Alors je ne me rappelle pas exactement ce qu'il y a dans cet article. Alors regardons, voyons. Ah oui, par exemple, nous livrons ici un petit exercice de comptabilité destiné à montrer qu'il est toujours pertinent de se demander, devant des données chiffrées, qui les a produites, dans quel but et selon quelle méthode et quelle définition. Il peut fort bien arriver que les données qu'on nous présente occultent une partie de la réalité. Alors ne considérons pas les chiffres comme sacro-saints et rappelons-nous qu'ils sont le résultat de choix et de décisions parfois arbitraires. Alors il illustre ça avec une petite blague. Il dit, vous connaissez peut-être cette blague qui circule chez les comptables. Une firme veut embaucher un ou une comptable. On demande au premier candidat combien font 2 et 2 ? Il répond 4. On fait entrer le deuxième candidat, même question. Combien font 2 et 2 ? Bon, le candidat il répond 4. Et il y en a un troisième qui rentre. La même question lui est posée. Il se lève, il ferme soigneusement les rideaux et il demande à voix basse au dirigeant, combien voulez-vous que ça fasse ? Voilà. Et là, lui, forcément, il est embauché. Donc cet exemple, c'est un petit bonbon au passage. L'exemple qui va suivre aussi est adapté d'un petit livre classique de Darrell Ulf. Alors je ne connais pas du tout cette personne, et il concerne justement le procédé comptable. Considérer des données financières, par exemple dans deux compagnies. La compagnie A, le salaire moyen des employés est de 22 000 $. Le salaire moyen et profit des propriétaires sont de 260 000 $. La compagnie B, salaire moyen sont de 28 065 $, et les profits moyens des propriétaires, sont de 50 000 $. Pour laquelle de ces compagnies préféreriez-vous travailler ? De laquelle voudriez-vous être le propriétaire ? En fait, votre réponse importe peu, puisqu'au final, il s'agit dans les deux cas de la même compagnie. Comment c'est possible ? C'est en fait fort simple. Il faut poser que 3 personnes sont propriétaires d'une entreprise qui emploie 90 salariés. À la fin de l'année, les propriétaires ont payé aux salariés 1 981 000 $ en salaire. Les 3 propriétaires ont pris chacun un salaire de 110 000 $. On constate au terme de l'exercice qu'il reste 450 000 $ de profit, somme à partager entre les propriétaires de l'entreprise. On peut exprimer ceci en disant, enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, c'est peut-être un petit peu relou pour vous en plus derrière le poste là, mais tout ça pour dire que tout dépend ce qu'on fait dire aux chiffres et comment on découpe les réalités comptables, notamment dans une entreprise. Il suffit juste que certaines personnes aient un statut différent, alors il y a plus de chefs d'entreprise, il y a plus d'actionnaires, donc quand on parle de salaire, ça ne va pas du tout se passer de la même manière, parce qu'il y en a qui seront payés en dividendes, d'autres en salaire, etc., etc. Donc vous pouvez avoir des données chiffrées totalement différentes et en fait qui parlent exactement du même bilan comptable d'une entreprise. Voilà, voilà, pour illustrer un peu tout ça. Alors une autre chose qui concerne aussi indirectement les chiffres, hein, qui est mise en avant aussi par Normand Baillargeon, ce sont les graphiques. Je ne sais pas si vous regardez souvent la télé, notamment les émissions politiques, mais c'est une méthode qui est énormément utilisée aujourd'hui dans les émissions de débat. On utilise des graphiques pour soi-disant illustrer un propos ou pour mettre en valeur quelque chose, pour illustrer un propos quel qu'il soit. C'est énormément à la mode. Et ce sont des graphiques qui, par exemple, ce qui est fait énormément en ce moment pour bien nous culpabiliser, pour bien nous faire entrer dans le crâne une bonne fois pour toutes, c'est des graphiques pour illustrer la dette. Alors on va prendre des exemples débiles qui veulent absolument rien dire, du genre, si on prenait la dette que nous avons en liquide, hein, par exemple, la dette, bon, le montant qu'il est, en pièces de 2 euros par exemple, eh ben, on va vous montrer que, genre, si on mettait toutes les pièces de 2 euros à un endroit, eh ben, la taille, elle monterait super haut, etc. Sans bien sûr prendre soin de vous expliquer clairement le format exactement sous lesquels on poserait ça, sous lesquels on poserait ces pièces. Évidemment, ça ne veut strictement rien dire, parce que ça n'illustre pas du tout la valeur de la dette. En plus, on fait ça en omettant le fait qu'on ne peut pas juste parler de dette, il faut aussi parler des actifs, de tout l'argent qui est en travail et qui bouge encore, puisqu'il y a énormément de richesses qui sont produites dans le pays pendant toute l'année, et sachant aussi qu'un titre de dette est valable 7 ans et demi, il me semble. Donc voilà, on peut pas zapper tous ces chiffres. Mais je sais que c'est un truc que j'ai pas mal vu aussi. Une fois, j'ai vu ça, je crois que c'était sur la 2, où ils le montraient, s'ils empilaient je sais plus quel truc pour arriver au montant de la dette, il faudrait 2 tours Eiffel ou des trucs comme ça pour vraiment faire peur aux gens. Hein. Regardez la taille de la dette, c'est impressionnant. On va tous mourir, dépêchez-vous d'aller travailler parce qu'on a besoin de la rembourser. Donc ces trucs-là, c'est des manipulations parce qu'au final, ça n'illustre absolument pas et ce n'est pas une donnée chiffrée valable. Il y a aussi, par exemple, quand on présente certains graphiques, on va prendre des échelles particulières pour faire dire vraiment ce qu'on veut au graphique. On va essayer de mettre en valeur une idée que l'on veut faire passer implicitement. Et forcément, si on utilise un graphique, ça biaise un peu l'information parce qu'on peut mettre une échelle plus ou moins différente selon ce qu'on veut faire voir. Si par exemple, on veut faire croire qu'il y a eu une augmentation ou une forte diminution de quelque chose, et ben forcément, même si elle est très très infime, on va prendre un graphique avec une échelle très 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 précise, et du coup, bah, la différence va se voir directement sur le graphique énormément, alors qu'au final, c'est pas dit que c'est une influence significative si la variation est très petite et infime. Voilà pour ce qui est des graphiques. On va même aussi parfois tricher sur les proportions, hein. C'est pour ça que là, notamment, c'est bien illustré dans le livre de Normand Baillargeon. Il y a aussi de très bons exemples. Par exemple, dans le bouquin de Normand Baillargeon, il présente un truc qui était sorti dans un journal qui montre en fait l'effet de la dévaluation sur la monnaie. Là, il parle du dollar. Et pour ça, genre, il présente le dollar dans les années 70 avec un format de pièce proportionnel à la valeur qu'il avait à l'époque et aujourd'hui, alors qu'il y a eu une forte dévaluation. Donc le billet est plus ou moins gros en fonction de la valeur qu'a le dollar à tel ou tel moment dans l'histoire. Sauf qu'il déforme le dollar dans la longueur, ce qui est normal, c'est proportionnel à la valeur de la dévaluation, mais en plus de le déformer dans la longueur, il le déforme dans la largeur. Ce qui fait qu'à vos yeux, même si la dévaluation est déjà différence qui est significative à l'œil, comme ils vont déformer dans les largeurs, ça va encore plus vous sauter aux yeux et vous avez l'impression que la dévaluation est 3 fois plus importante et le graphique exagère 3 fois plus le chiffre qu'il veut faire ressortir. Voilà, pour illustrer un petit peu, j'espère que j'ai été clair. C'est pas évident d'être clair comme ça, surtout sur quand on parle d'image. J'espère que c'était clair, notamment pour les graphiques. On peut dire un peu ce qu'on veut aux courbes. Et ça me rappelle aussi le fameux documentaire de Al Gore qui s'appelle Une vérité qui dérange, où ça a été beaucoup contesté, même si on conteste pas les résultats de toutes les études et on sait très bien qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Ce qui a été contesté, c'est les passages où il utilise des graphiques, où notamment il monte sur une espèce de nacelle pour arriver tout en haut du graphique pour montrer qu'il prouve qu'il y a eu des réchauffements à tel ou tel endroit sur la planète. C'est un petit peu tendancieux à certains moments parce que on ne sait pas exactement quelle échelle est utilisée et c'est facile un peu de faire dire ce que l'on veut faire dire à un graphique. C'est très facile de le mettre en exergue et de l'illustrer comme on veut. Voilà, alors il reste environ 10 minutes d'émission. Là, on va se passer un petit morceau qui est un morceau du groupe Alex Is On Fire qui s'appelle Accept Crime. Donc oui, et c'est un très bon morceau, parce que comme il le dit dans les paroles, « There's no police between two beating hearts ». Il n'y a pas de police entre deux cœurs qui battent. Voilà. Yes. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Voilà, c'est ça. We'll be right back. Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu 102.2 FM. On s'écoutait Alexis on Fire avec le morceau Accept Crime. Donc nous étions toujours sur le petit cours d'autodéfense intellectuelle ce soir et il en sera terminé. Nous allons passer à un autre sujet dans deux semaines, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission Les yeux grands ouverts. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Je vous rappelle que nous avons donc la boîte mail pour les suggestions que vous voulez faire, que ce soit en termes musical, des idées d'émissions, des envies, des documents, peu importe, vous êtes tout est le bienvenu. Donc l'adresse c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, donc les yeux évidemment avec un X, grand avec un S et ouvert avec un S, tout attaché bien entendu, @laposte.net. Vous avez également le blog pour écouter tous les podcasts, puisque l'émission a commencé depuis la fin du mois de juillet. Donc nous avons fait des émissions sur la colonisation, sur l'autodéfense intellectuelle, sur les médias. Nous avons fait également une émission musicale. Et voilà, donc si vous voulez retrouver tout ça, vous pouvez tout retrouver sur le blog de Radio Canu et le blog des yeux grands ouverts. Il y a également la page Facebook sur laquelle je vais transmettre toutes les illustrations de vidéos ou les illustrations qui mettent en avant tout ce que j'ai expliqué dans l'émission. Donc par exemple ce que j'ai fait sur l'expérience 2000 grammes, l'expérience de H et bien d'autres. Donc il y a la vidéo de Monkey, alors attendez que je retrouve le nom parce que j'ai un peu du mal avec l'anglais à certains moments, Monkey Business Illusion, voilà c'est ça. Et donc la petite vidéo pour comprendre comment fonctionne la perception, les petites vidéos, donc je ferai transmettre ça. Ça peut être amusant que vous essayiez de jouer le jeu pour voir à quel point les perceptions peuvent être perturbées. Voilà. Que dire de plus? Donc je dis soutien à Radio Canu, envoyez vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 pardon, Lyon CEDEX 01. Et puis pour ce soir ce sera terminé, la semaine prochaine rien du tout non plus, et dans deux semaines une émission, nous allons parler de la Révolution française à travers Robespierre et d'autres personnages de la Révolution principale, mais enfin de la Révolution française, mais principalement par le biais de l'histoire de Robespierre. Situation qui nous permettra de comprendre à quel point l'histoire peut être complexe et qu'elle n'est pas toujours ce qu'on veut bien nous en dire, et que malgré tout, comme tout ce qui existe dans la vie en général, les perceptions modifient la manière qu'on a de le raconter, de l'entendre et tout et tout et tout, etc. Donc la version que je vais donner de la Révolution française, c'est peut-être celle qui est à ma faveur, mais je n'ai pas de preuves scientifiques non plus là-dessus, mais je me suis basé sur des propos d'historiens, et vous verrez que il y a plein d'historiens qui ne racontent pas les mêmes choses sur les sujets, mais moi là ce sera la version qui me plaît. Ensuite, je vous souhaite une très bonne soirée. On arrive au terme de l'émission, mais avant, on va s'écouter un petit morceau avant de se quitter. C'est un morceau qui s'appelle 27 et c'est de Biffy Clyro. Allez, en avant. Just pierce me through. Vous êtes toujours sur Radio Canu. C'était le groupe Biffy Clyro avec 27. Et ben, je vous remercie tous pour de nous avoir écoutés, pour ceux qui ont écouté l'émission. J'espère que c'était pas trop confus ce soir parce qu'il y avait des éléments à évoquer qui étaient pas forcément simples. Et puis il est pas facile de travailler, d'approfondir toutes les semaines parce que on a aussi nos vies à côté, donc c'est pas évident. J'espère que l'émission vous a plu. Pour les cours d'autodéfense intellectuelle, c'est terminé. Pour le moment, en tout cas, je vous invite donc à regarder le film Chomsky et compagnie de Daniel Mermet, où vous verrez Normand Baillargeon et Noam Chomsky vous expliquer eux-mêmes directement tout ça, même s'ils vont répéter un peu tout ce que je vous ai dit là, puisque c'est un peu sur eux que je me suis appuyé pour faire ces émissions. Que dire de plus? Je disais que la semaine prochaine il n'y a pas d'émission, mais que la semaine d'encore après il y en aura une et qu'elle concernera la Révolution française. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit même sûrement, à cette heure-ci, il commence à être tard. Et je vous dis tous amour et révolution, et à la prochaine. Salut, salut.
Femme, femme d'ici et d'ailleurs, pourquoi tant de pleurs? Opprimée et méprisée, l'homme ne t'a pas épargné dans ta douleur, mais tu restes la fleur dans toute ta splendeur. Mais tu